Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Et ce soir, c'est la fête de la musique, Jacques. Cela ne vous a pas échappé, évidemment. Elle va résonner dans nos quartiers, nos communes. L'occasion pour vous de s'intéresser à la signification sociale de la musique.
Oui, et elle est évidemment très diverse. Et ce sont surtout les ethnomusicologues qui l'ont étudiée. L'un d'entre eux, Gilbert Rouget, l'avait approché sous l'angle de la transe. On sait souvent représenter la musique comme douée du mystérieux pouvoir de déclencher la possession, écrivait-il. Il n'en est rien, la musique ne fait que socialiser la transe et lui permettre de s'épanouir. Pour lui, la musique est au service du social. Mais Christopher Small la voit au cœur du dispositif qu'elle contribue à ordonner. Auteur d'un ouvrage devenu un classique des Music Studies, que les éditions Philharmonie de Paris viennent de publier, il s'emploie à décrypter les interactions sociales produites par l'événement typiquement occidental du concert symphonique. Le titre du livre, « Musiquer », comme un verbe, hein, « musiquer », évoque une expérience globale, participer de quelque manière que ce soit à une performance musicale, en jouant, en écoutant, en répétant ou en pratiquant, en fournissant un matériau pour une performance, ce qu'on appelle composer, ou en dansant. Le néologisme avait également été employé justement par Gilbert Rouget, qui faisait remarquer que Diderot ou Rousseau l'utilisaient couramment. Mais son application au monde feutré des salles de concert classiques est une entreprise étonnante et éclairante à la fois, car il s'agit d'une expérience si familière qu'elle nous cache sa nature éminemment sociale. Avant d'analyser, pour commencer, l'élément spatial et architectural du dispositif, l'auteur évoque un trait culturel qui contribue à faire écran dans nos représentations. C'est l'œuvre, l'œuvre au centre de l'histoire de la musique et qui relègue au second rang le rôle essentiel des interprètes. Ce qui est valorisé, ce n'est pas l'action de l'art ou l'acte créateur et encore moins celui de percevoir et de réagir, mais l'objet créé en tant que tel. Un phénomène que Walter Benjamin résumait ainsi dans l'origine du drame baroque allemand. La réalité suprême de l'art, c'est l'œuvre isolée, fermée. Brahms déclina un jour une invitation à Don Giovanni en prétextant qu'il préférait rester chez lui et en lire la partition. On ne sait pas ce qu'en aurait pensé Mozart, ce génie de l'interprétation. Le résultat, globalement, c'est que la performance ne joue aucun rôle dans le processus créatif, que la musique est une affaire individuelle, que composer, interpréter et écouter se déroule dans un vide social, que la qualité de l'interprétation est plafonnée par celle de l'œuvre et que rien ne saurait contribuer à la production de sens, chasse gardée du compositeur. Or, selon Christopher Small, l'œuvre en elle-même n'existe pas, sinon pour offrir aux musiciens quelque chose à jouer. Maintenant, entrons dans la salle du concert après avoir été impressionnés par la taille et l'allure du bâtiment. Sa splendeur clame haut et fort que les spectacles qui s'y déroulent sont eux-mêmes une activité sociale importante. Avant d'y accéder, petite étape transitoire dans le foyer où des bars offrent collations et boissons. Avant la messe convenue, on peut y afficher décontraction et sociabilité. Rien à voir avec ce qui se passe dans la salle. Construite conformément au principe selon lequel une performance musicale est un système de communication unidirectionnel qui va du compositeur à l'auditeur via les musiciens. Là, toute sociabilité est restée au vestiaire, même si nous sommes venus seuls et que nous ne connaissons personne. Nous pouvons malgré tout nous considérer comme faisant partie de l'événement. Dès lors, le silence est de mise, le confinement en fauteuil, les retardataires exclus avant l'entracte. On se rassemble pour partager, écrit Christopher Small, des moments de culture intime et personnelle avec des inconnus. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. La rotonde du Ranelagh à Londres, au mi-temps du XVIIIe siècle, la plus grande salle de musique sur environ 200 jardins d'agrément, offrait la possibilité de ne pas séparer interaction sociale et plaisir musical. On s'y croisait, on s'y rencontrait, dans un cadre où la musique offrait une toile de fond à écouter dans les intermittences de la conversation. Les grands festivals de rock des années 1960 et 70 illustrent d'une autre manière une forme de sociabilité qui n'était pas une activité séparée des performances. Bien plus, ils étaient vécus comme des moments de libération des contraintes quotidiennes. Aujourd'hui, en Afrique, du Burkina Faso jusqu'en Ouganda, en passant par le Cameroun ou les Comores, les chanteurs s'engagent en politique. Antoine Péqueur a mené l'enquête pour la revue du Crieur. Il cite la chercheuse Chloé Buir qui rappelle que dans les années 1930-40, l'engagement politique se retrouvait surtout chez les poètes, les chantres de la négritude. C'était eux qui portaient les luttes de la décolonisation. Aujourd'hui, c'est dans le champ musical que l'on retrouve ce militantisme. Là, l'auditeur joue un rôle actif et à Ouagadougou, au rassemblement autour du rappeur Smokey, le terme concert semble inadapté à décrire l'événement.